RFI, Radio France International.
Maintenant, on tourne à Monsieur Bernard Buisten. Vous êtes directeur du Musée national de l'art moderne Centre Georges Pompidou. Si je comprends bien, avant l'exposition, vous avez déjà vu la maquette de cet empire dans l'atelier de Yongping. À l'époque, il ne voulait pas montrer au monde parce que c'était complètement secret. Vous étiez déjà dans le secret.
Je ne devais pas être le seul à être dans ce secret, mais je remercie Yongping et Kamel Menour de me l'avoir fait partager. C'est vrai que lorsque le projet de Monumenta s'est mis en place, tout de suite, vous vous prenez à imaginer ce que peut faire l'artiste et quelle sera la proposition qu'il pourra mettre en œuvre dans un lieu aussi monumental. Et connaissant le travail de Yongping depuis longtemps, le regardant depuis longtemps, je me suis mis à rêver de ce que pouvait être le dialogue même de son travail avec ce lieu. Je ne soupçonnais pour autant absolument pas ce que j'ai pu découvrir dans l'atelier, si ce n'est bien évidemment que je mesurais qu'il y aurait une présence animale qui, comme vous le savez, est une présence constante dans son œuvre. Sous quelle forme, je n'en savais absolument rien, mais je savais qu'avec les animaux, ils pouvaient peupler l'espace, investir un lieu aussi gigantesque. Et je dois dire que la présence de ce squelette de serpent, et non pas d'un serpent, mais de squelette de serpent, m'est immédiatement apparue comme une réponse tout à fait passionnante à ce lieu, qui lui-même est un immense squelette de métal. Et j'ai tout de suite imaginé que s'instaurait un dialogue entre l'architecture du lieu et entre la proposition de Ping. Mais ce n'est certainement pas dans l'atelier où j'ai vu une très belle maquette, mais trop petite pour mesurer ce à quoi j'allais être confronté, que j'ai compris l'intuition qui, à mon avis, avait été la sienne. Pour la résumer telle que je me la représente, le pouvoir même de ce lieu contre l'autorité même de son œuvre. Le pouvoir de cette architecture industrielle, née à une époque triomphante au début du XXe siècle, lorsque la modernité était à son acmé, et l'autorité même de cette figure, car je vois le serpent comme une figure, à la fois comme une figure de style, et bien évidemment comme l'animal qu'il figure, venant s'immiscer dans ce lieu, qui, d'une certaine façon, est peut-être l'autorité de l'artiste face au pouvoir du lieu. Cela, vous ne pouvez le mesurer qu'à l'échelle réelle. Seul l'artiste peut avoir l'intuition ou l'intelligence même de ce rapport absolument stupéfiant à l'espace, parce qu'on ne répète jamais assez que Monumenta porte vraiment bien son nom et que c'est un défi absolument considérable pour un artiste, que de pouvoir se loger dans cette cathédrale de verre, qui, comme vous le savez, est l'héritage des grands bâtiments industriels du 19e siècle, du Crystal Palace d'une certaine façon, et qui entre de fait, non pas tant en compétition, mais dans une relation extrêmement complexe avec l'artiste qui va devoir y concevoir un projet. Et il est clair que la présence massive des containers et de tout ce qu'ils véhiculent, le voyage, le transport, le commerce, etc., et de l'architecture elle-même, était déjà une réponse que je trouvais tout à fait formidable. Et qu'ensuite, la présence même de ce squelette de serpent face à l'ossature même du lieu, cette figure mouvante face à cette architecture si prégnante était une autre manière de s'infiltrer et de s'approprier l'espace. La troisième figure, c'était évidemment ce chapeau. Nous en avons discuté dans l'atelier, parce qu'il faut aussi trouver des solutions quand on est un artiste. Ping nous a expliqué, à Kamel Menour et à moi, que le bicorne, initialement, ne devait pas être placé là où il l'a été, mais qu'il fallait qu'à un moment donné, il trouve une solution concrète. Ce que par contre il savait, c'est qu'il devait être à équidistance du palais de l'Élysée et des Invalides. Il y avait là justement comme une forme d'ironie nécessaire, je crois, lorsque l'on s'apprête à réaliser une œuvre aussi gigantesque. Et je dois dire que c'est aussi un des aspects, moi qui ne connais pas grand-chose à la culture chinoise, qui m'a immensément touché dans ce projet. C'est qu'il jouait à la fois avec la monumentalité même de l'espace, mais qu'en même temps il la défiait. Vous disiez vous-même tout à l'heure « monumenta », qui est un mot emphatique, qui est presque un mot prétentieux. Et puis le monument, ça n'est plus l'histoire de la sculpture contemporaine. La sculpture contemporaine, elle défie le monument. Elle s'oppose à la solennité du monument. Et je trouve que la convergence de ces éléments dans le dispositif qu'invente Wang Yongping est ici évidemment une réflexion sur le pouvoir et une réflexion teintée justement d'ironie, peut-être même de sarcasme, et qui a là quelque chose qui, dans les temps que nous vivons, est certainement évidemment une conscience politique et morale que peu d'artistes de son ampleur ont encore aujourd'hui.
我简单地归纳一下 Bernard Blisten 刚才说的 他呢讲他非常有幸 在Gamal Menour和永平的邀请下呢 能够很早地看到的秘密 但是那个呢是一个小规模的 他当时就在想小规模的这个模型和 在大皇宫里边的成品之间的关系 最后他当然明白 这里边最主要的是一个权力和权威的问题， 无论从蛇本身还是从作品与大皇宫的玻璃结构的关系， 以及他们的位置， 都是一个对权力权威的挑战疑问， 同时呢， 也是一种嘲讽。 那么这种政治良心， 这种 清楚的政治思维现在在大艺术家里边是为数不多的。我刚才呢问Gamal这件作品呢，你们刚才都讲了有一个艺术的力量在里边，也有政治的良心。对我来说呢，虽然在一个Monumental里边是一个矗立在那边的大型的艺术品，但是呢它又是脆弱的，因为它展出只有 一个月零九天，在一个月零九天以后，这个能够展示艺术力量的作品，它又会到哪里呢？所以我就把这个问题问了Gamal了。那Gamal呢没有直接的回答，但是呢，他说呢，最重要的是他展出的期间让很多人看见了，通过社交网络流传，所以呢，这个作品呢，至少在这段时间，通过这段时间留在了人们的心里。
Vous avez plus que 30 ans d'expérience dans le musée, donc vous êtes conservateur et commissaire. Pour vous, ce genre de grande pièce qui est censée être un monument, mais une fois il a terminé sa période éphémère au Grand Palais, comment traiter ce genre de questions?
Je crois que la réponse la plus juste est celle de Yongping. Je crois qu'en citant Bataille, en parlant de consommation non productive, il parle certes de ce projet, mais qu'il parle de ce que devrait être l'expérience de l'art en général. Et ce qu'il y a de magnifique dans cette pièce, c'est qu'elle est une immense allégorie de cette réalité-là, voire de ce paradoxe. Un artiste s'engage pleinement avec la complicité de quelqu'un qui veut jouer le jeu avec lui, car tout cela, c'est évidemment d'une complexité, d'une cherté extrême, et qu'il faut la folie de notre ami Kamel Menour pour jouer ce jeu. Un artiste s'engage dans un projet en faisant fi des conséquences qui, bien évidemment, ne manqueront pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de cette ampleur de se poser une fois l'exposition terminée. Mais je crois qu'il y a là des éléments qui sont extrêmement importants dans l'œuvre elle-même. Sans doute dans le travail de Pink, qui, souvenons-nous-en, s'est intéressé à des objets démantelés et en même temps réarticulés. Rappelez-vous de l'histoire de l'avion américain qui, en son temps, avait valeur de symbole même dans son travail. Sur un premier plan, j'ai presque envie de dire que même si rien ne subsistait de cela, quelque chose subsisterait dans nos mémoires, quelque chose subsisterait dans notre esprit, comme une grande réflexion, à la fois sur, je dirais, l'ambition même d'un pareil projet, sur l'ambition d'une œuvre en général. Je cite souvent, non pas Georges Bataille, mais Jean-Luc Godard, qui dit quelque chose de magnifique sur l'expérience artistique, qui dit que veut l'art tout, que peut l'art rien, que fait l'art quelque chose. Et je trouve qu'autour de ces trois assertions, il y a quelque chose qui colle de manière absolument magnifique avec le travail de Ping, qui fait que certes l'œuvre aujourd'hui est produite, que certes dans quelques semaines elle sera démantelée, mais somme toute il appartient à ceux qui croient en ce qu'il dit, de voir comment à partir justement de ce projet, ce projet-là et d'autres peut se reconfigurer, peut réapparaître, c'est une apparition, c'est quasi une image fantôme que cette grande installation peut réapparaître quelque part, peut surgir en quelque sorte quelque part, et il appartient aux gens qui font nos métiers d'aider, à partir même de cette expérience-là, qu'elle se rejoue ailleurs. Vous savez, encore une fois pour faire une citation, on aime les citations dans nos métiers, Michelet disait « Toute révolution est un coup de dé ». Manière de dire que dès que quelque chose bouleverse l'ordre attendu des choses, ben, y a quelque chose qui arrive dont on ne sait pas trop ce que cela peut devenir après. Et j'ai le sentiment qu'avec pareille machine, qu'avec pareil dispositif, il y a 1000 hypothèses qui peuvent naître. La reconfigurer telle qu'elle, ailleurs, la reconfigurer autrement, ailleurs, la faire réapparaître dans d'autres instants, la démanteler et finalement, ce serait Bataille alors encore, jouer au potlatch et donner des fragments aux uns et aux autres. Bon, on a là une proposition qui est d'abord une réponse à l'espace et au lieu, mais une réponse qui va au-delà de la forme, qui, à mon avis, est d'abord une réponse, je dirais, de caractère critique et politique à une histoire, à un espace, à un moment de la modernité. Nous sommes à un tout autre moment de notre modernité. Elle se fissure, elle se fragmente, on le sait. Et c'est sur ces bases-là que je crois qu'il y a quelque chose qui peut, de fait, dans la conscience de ceux qui sont proches d'un artiste de son ampleur, nous conduire à nous dire, ben voilà, j'ai là quelque chose sous les yeux, et c'est ailleurs qu'il faut l'emmener. Vous savez, je me souviens de l'époque où, faisant mes études, on nous parlait du radeau de la Méduse, de Géricault. Et on nous disait, ben voilà, Géricault a peint ce gigantesque tableau, ce chef-d'œuvre, parce qu'il voulait témoigner d'un état du monde au début du XXe siècle. Bien, c'est le même Géricault qui l'a emmené en Angleterre sur une carriole, pour le présenter ailleurs, et pour en faire un manifeste. Et je pense qu'il y a là, dans le cours de l'œuvre de Wang Ping, quelque chose comme un manifeste qui va l'encombrer tout autant qu'il nous encombre, et dont il faudra de fait, à un moment donné, savoir faire autre chose et autrement.
quand je vous écoute tous les trois, on a vite pigé. C'est une œuvre qui s'inscrit dans la force de l'art. Et c'est une pièce quasiment le miroir participant d'un monde du grand capital, un monde dominé par les grands capitaux. Et justement, si cette œuvre qui pourrait, comme un serpent, qui bouge ici, là-bas, et c'est ça le sens de l'œuvre, et si, à partir de 1 mois et 9 jours, si ce serpent est démantelé, disparu et rangé dans le tiroir, du coup, il n'y a pas besoin de la force de grand capital, parce que l'œuvre, c'est auto-retrait et c'est auto-caché, et donc, du coup, c'est un peu court. Que pensez-vous ?
Je me demande si c'est un serpent. On voit tout de suite un serpent, puisque de fait, on pense aux mythologies chinoises, et donc, comme par un cliché, on y voit un serpent. Moi, je vous l'ai dit, j'y vois, avant que d'y voir un serpent, un squelette. Mais quelque part, ça agit sur moi un peu comme agit le monstre du Loch Ness. Il est là ou il n'est pas là, il se manifeste ou se retire, il est visible et invisible à la fois. Et j'ai envie de dire que c'est comme ça que j'ai envie que quelque chose de cette œuvre, si vous voulez, subsiste. Je sais qu'il se manifestera à différents moments. Où et comment, je n'en sais rien. Si je vais au bout de mon raisonnement, je dois aider à ce que justement ces manifestations se fassent ici ou là. Mais j'ai le sentiment que, métaphoriquement alors, et non pas simplement allégoriquement, mais métaphoriquement, Wang Yongping a produit une œuvre dont il ne pourra pas se débarrasser. Et une œuvre qui, à différents moments de sa vie et de son histoire, et sans doute au-delà même de sa propre vie, bien réapparaîtra, se manifestera ici ou ailleurs, sera en quelque sorte comme l'allégorie du monde dans lequel nous sommes. Que finalement, elle est comme un outil, elle est peut-être comme une arme, je n'en sais rien, pour essayer de fonctionner dans le contexte même à la fois de l'art, mais d'un espace public, il ne faut pas l'oublier, d'un espace social, qui donne d'ailleurs tout son poids à Monumenta. Parce que Monumenta, c'est quoi ? C'est aussi le rendez-vous avec des publics qui ne sont pas nécessairement familiarisés avec l'espace du musée. C'est l'idée aussi qu'une œuvre peut avoir une dimension spectaculaire et capter aussi des publics qui, généralement, n'osent pas se confronter même à l'expérience de l'art. Et puis, je voulais dire aussi que dans le serpent, certes, il y a le serpent, mais il y a l'arabesque, il y a le ruban, il y a la spirale. Et que dans l'histoire de l'art moderne et contemporain, à différents moments, on voit des artistes qui ont figuré des formes analogues pour justement signifier que quelque chose ne peut pas être statique, mais doit par essence être en mouvement.
Alors Yongping, il a répondu, d'abord l'empire, ce n'est pas l'empire de l'artiste. Si c'était l'empire de l'artiste, ça serait autre chose, non, c'est absolument pas. Ça c'est une chose. Et deuxième, l'empire, c'est un piège. Troisième, l'intérêt de cette œuvre, c'est sa flexibilité. Donc, il a beaucoup de pistes imaginaires et il peut conjuguer d'une manière très flexible. Donc, c'est un jeu intellectuel. C'est comme la stratégie militaire chinoise. Quand il y avait une guerre, peut-être il y a un côté fonctionnel. Et quand il n'y avait pas de guerre, cette stratégie militaire, c'était qu'un jeu purement intellectuel et on prend le plaisir de ce jeu. Vous êtes d'accord, Bernard ?
Je suis absolument d'accord et je pense qu'il faut revenir aussi au titre même que Yongping donne à cette œuvre. Quiconque a lu la philosophie post-marxiste du tournant du XXe siècle et entre autres le livre de Tony Negri, Empire, ne peut que mesurer qu'il n'y a pas là qu'une coïncidence, mais qu'il y a véritablement une réflexion sur l'engagement, voire sur le nomadisme intellectuel dont a parlé Negri, entre autres dans certains textes qu'il a publiés dans la revue Multitude. Donc je pense que Wang Yongping donne lui-même une piste de compréhension, d'interprétation, voire d'usage même de l'œuvre qu'il a réalisée, dont la finalité est subversive, mais il ne saurait y avoir évidemment de pratique subversive sans pratique mouvante, sans capacité même à se déplacer. Et il me semble que l'œuvre de Monumenta, l'œuvre du Grand Palais, est évidemment une réponse à cela. Il y a d'ailleurs un très beau paradoxe dans l'œuvre de Wai Yong Ping, c'est que, comme vous le savez, il a beaucoup utilisé des animaux empaillés. J'aimerais qu'on réfléchisse un instant à l'opposition qu'il y a entre animal empaillé et squelette d'animal. Il y a deux étapes du règne animal, en quelque sorte, si vous voulez, qui sont proposées dans son œuvre. Je pense vraiment que la pièce est d'une précision extrême et que des trois grands modules qui la composent, les containers, le serpent et le bicorne, jusqu'au titre, il y a les clés du jeu que vous évoquez tout à l'heure, du jeu qui est un jeu de l'esprit, qui est un jeu intellectuel, mais qui est aussi, comme vous-même le remarquez, sans doute proche, mais il est difficile lorsque vous êtes occidental de passer votre temps à utiliser des clichés, si vous voulez, d'une culture que vous ne connaissez pas, évidemment proche de l'art de la guerre, sûrement.
Bernard, il est complètement d'accord avec l'œuvre et le Sun Tzu Binfa. C'est le principal point de vue. Ici, il y a un livre, ça s'appelle House of Oracles, à Wang Yongping Retrospective. Alors, Oracles en chinois, c'est 占卜者. Donc, c'est-à-dire, on peut projeter sur l'avenir. Est-ce qu'on peut déjà voir la force de l'art dans l'avenir et ça va augmenter ou bien ça va diminuer par rapport aux grandes dynamiques du capital aujourd'hui? 我现在的一个问题呢, 就是既然是 永平以前有一个书 叫占卜者之屋, 那么我们现在能不能占卜一下 艺术的力量 在资本大资本的运动面前 以后究竟会增长呢 还是会减弱?
J'aurais envie de demander à Wai Yongping s'il a été ou s'il est encore lecteur de Michael Art et de Tony Negri, si justement ce que Tony Negri évoquait dans Empire, quand il parlait d'un revenu déconnecté de l'emploi, ou quand il parlait d'un pouvoir qui n'écrase pas les sujets, mais d'un pouvoir qui court après les sujets, n'était pas quelque part des éléments même de sa réflexion sur la fonction de l'art. Je vois en tout cas que cette idée du jeu traverse évidemment cette proposition comme sans doute d'autres propositions. Je vois que le piège tendu à l'artiste est évidemment celui de se soumettre à un ordre établi et à son fonctionnement. Mais je dirais que lorsqu'on répond à la sollicitation du monde de l'art par un projet aussi démesuré, lorsqu'on contraint en quelque sorte le monde de l'art à jouer ce jeu, bien on est en position même de garder la maîtrise même de son travail plutôt que de le voir vous échapper. Et j'entends dans ce que dit Wai Yongping que cette contrainte est en quelque sorte une contrainte qu'il se donne à lui-même, mais qu'il instaure aussi pour les autres. Et j'entends que, sans rentrer encore une fois dans des analyses post-marxistes, qui pourtant viennent à l'esprit quand on regarde un travail comme celui-ci, et quand on sait d'où, bien évidemment, Wai Yongping s'est enfui, bien, il y a là une relation au capital, tout à fait singulière et tout à fait originale, qui rejoint, je crois, la pensée justement de certains intellectuels et de certains artistes qui ont dépassé le rapport dominant-dominé qu'instaurait la lecture traditionnelle même de la pensée de Marx. Et l'autre question qu'alors, justement, je serais enclin à poser à Wai Yongping, c'est: où en est-il justement aujourd'hui de sa lecture, même politique du capital et comment l'artiste, qui se confronte à cette réalité dans le quotidien même du travail, comment l'artiste et comment un artiste comme lui, au-delà même de la question du jeu, essaie d'y répondre.
R F I 法国国际广播电台